D'une poignée d'euros à plusieurs milliers, les prix des bouteilles de vin sont extrêmement variables.
Les premiers vins, on démarre à 10 euros sur les génériques.
Le plus petit vignoble du Bordelais, 5 hectares. C'est inabordable. 3000 euros la bouteille.
Voilà, avec le travail qui est fait derrière, ça reste des bouteilles qui sont abordables.
Vous donnez Château Yquem, 1945 francs.
Ah non, monsieur, ça c'est l'année. Le prix, c'est 2350 francs.
Qu'est-ce que t'as mis dedans, Jean-Michel?
Le vin que t'as apporté, puis sinon, comme d'hab, orange, cannelle, sucre.
Quel vin t'as pris?
Le vin, là, dans la cuisine.
T'as pas pris le Château Pétrus?
Les trois quarts des vins les plus chers au monde viennent de Bourgogne.
Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Quelle différence entre une bouteille de Côte-du-Rhône à 16 euros et un autre Côte-du-Rhône produit juste à côté et vendu 4,70 euros? Pourquoi certains Bordeaux à moins de 10 euros offrent l'élégance du Bordeaux quand le prix d'autres étiquettes s'envole dans les stratosphères? Comment s'expliquent de tels écarts de prix pour une même bouteille selon qu'elle est vendue au domaine, chez le caviste ou au restaurant? On va voir que ce prix répond à une mécanique complexe, mystérieuse, parfois déroutante, d'où cette question du jour, quel est le juste prix du vin? On lance le débat avec celui qui m'a soufflé cette idée d'émission, c'est notre chroniqueur et expert en vin, Jérôme Gagnès, bonjour!
Bonjour à tous!
Vous êtes en forme?
En pleine forme.
Ça tombe bien, le sujet du jour est important. Également autour de ce plateau, Laure Gasparotto, bonjour!
Bonjour François Régis, là, je suis bien réveillé.
Ça va. Non, non, mais Francis Régis, ça m'arrive régulièrement, rassurez-vous, pas de problème. Vous
Francis
êtes...
Réjois!
Oui, c'est ça, oui. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste du vin depuis plus de 20 ans, auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le vin, et vous racontez dans votre dernier essai, qui s'intitule Vigneronne, publié aux éditions Grasset, votre conversion, alors on va voir, avortée, à la viticulture. Autant dire que vous êtes très bien placé pour évoquer cette question du prix du vin. Pierre Villapaléja, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sommelier, restaurateur, dégustateur, sommelier de formation, passé par de grandes maisons parisiennes. Restaurateur car vous avez fait de votre bistrot Le Petit Sommelier, à deux pas de la gare Montparnasse, l'une des adresses préférées des amateurs de vin à Paris. On peut dire ça comme ça?
Oui, on peut. On peut le dire,
on peut.
Moi je le dis en tout cas.
Ah, voilà. C'est gentil, merci.
Ah bah, il a la caution de Jérôme Gagnès, voilà. En plus. Et pas que de Paris, vous avez raison. Non, je disais à Paris. Ouh là là, attention, bien sûr. On vient vous voir de très très loin. Et dégustateur, car vous faites aussi partie du comité de dégustation de la revue du vin de France. On va débattre ensemble du prix du vin, mais comme notre émission s'appelle On va déguster, eh bien, on est aussi une émission de plaisir. Et je vous ai demandé à chacun de nous faire déguster, découvrir quelques-uns de vos coups de cœur à prix juste. Et vous nous en expliquerez le prix, justement. Et puis également avec nous aujourd'hui, Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va l'ami?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très bien. Oui. Vous animez et je remets le son le samedi à 22h. Et on profite régulièrement de votre oreille musicale et de votre bouche gourmette dans l'émission. Des platines au petit plat, cette semaine au menu.
Au menu, je vais vous emmener en Auvergne, du côté de Saint-Pourçain, c'est pas loin de chez moi.
Voilà, et le vin peut aussi être un ingrédient de cuisine tout à fait exemplaire. C'est ce qu'on va voir avec Mathieu dans le courant de cette émission. Posez vos questions et interagissez dans l'émission en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien en cliquant sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Les 20 coups de cœur de nos invités, le podcast de toutes nos chroniques, le podcast de toutes nos émissions sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de mettre le nez dans le verre, vous allez commencer par mettre le nez dans l'assiette avec cette petite surprise gourmande que vous dégustez à l'aveugle.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben oui, c'est toute la question Mathieu, c'est une petite énigme tout à fait amusante. Est-ce que quelqu'un pourrait d'abord, ça donne peut-être une indication, nous en décrire la couleur? Pierre Villapaléja.
Un peu noir, on dirait un peu de la mélasse qu'on pourra avoir de canne à sucre.
C'est
brillant.
Noir charbon, hein.
C'est noir. Hein. Mmh. Bien brillant.
C'est plus noir qu'une tapenade.
Oui. Ouais. Oui.
Ça mais c'est un peu cet aspect-là.
Après, c'est vrai que dès qu'on met sa cuillère.
Ça n'a plus vraiment le goût de la tapenade.
Non, mais pas vraiment.
Ça en a la texture.
Texture
de tapenade, selon Jérôme Gagnès. Pierre Villapaléja, au niveau du goût.
C'est assez vinaigré. Il y a une petite touche sucrée. Mm-hmm. Pas trop, c'est plus fruité à mon avis.
Ouais.
J'ai du mal à cerner les contours de ça.
Ah, on chauffe, il a dit fruité. Oui, mais l'or.
Alors, moi, je suis surprise par la texture parce que c'est une texture très très solide.
C'est granuleux la texture.
Uh-huh. Ouais.
Alors, le nez est très puissant, c'est intense.
Ouais, c'est
ça
intense.
Sent le bois de santal, c'est oriental, c'est
C'est
limoneux.
Il y a des indices intéressants.
J'ai jamais goûté un produit pareil.
C'est étrange. Je savais que ça allait totalement perturber vos repères, Mathieu Conquet.
C'est super puissant.
Oui.
Il y a quelque chose de très concentré.
Mm-hmm.
C'est pas fait pour être mangé comme ça tout seul. Je pense que c'est fait pour se développer autrement.
Ouais.
Maintenant, comment c'est obtenu?
C'est un condiment. C'est un condiment.
Ah, absolument.
Pour moi, c'est très citronné. Et ça fait penser, et c'est marrant parce que en bouche, quand je l'ai goûté, la première impression, c'était pas le citron. Alors pourtant, le citron est très très puissant, et il y a un côté aussi prunelle, une petite prune sauvage très acidulée.
Mm-hmm.
C'est pas le citron noir, peut-être.
Bravo.
Ouais, c'est ça.
Et ben,
citron noir.
Il a résolu l'énigme, Pierre Villa-Paléja. C'est du citron noir, absolument. Alors, il est surnommé l'or noir, c'est le surnom de ce produit qu'on pourrait résumer par une confiture d'agrumes. Et cet agrume, c'est effectivement, vous avez raison, Pierre Villa-Paléja, le citron noir, un produit que l'on trouve dans la cuisine persane et dans la cuisine des pays du Golfe Persique, Irak et surtout Iran. À l'origine, en fait, c'est pas du tout un citron, enfin c'est une lime, donc fruit du limetier. Vous savez, souvent la lime, on l'appelle improprement citron vert, alors que botaniquement, ce n'est pas un citron, mais un autre agrume. Et c'est un citron qui est donc cueilli en Iran avant maturité. Il est bouilli dans l'eau, il est salé, il est transporté ensuite dans le désert, où il est enterré dans le sable entre 3 et 5 semaines. L'écorce prend alors une couleur noire, un peu comme l'ail noir que l'on fait, vous savez, que l'on fait sécher également. Le citron prend une couleur noire, l'écorce devient très dure, presque cassante, et la pulpe se dessèche et prend des notes carrément confites. Et là, il y a effectivement le côté presque un peu... électrocution, j'ai envie de dire. C'est une douce électrocution.
C'est strident.
C'est strident. C'est aigu, si on parlait comme notre chroniqueur musique Mathieu Conquet. Et il y a effectivement, et ce qui est perturbant, c'est la couleur, en effet, puisque le goût n'a pas du tout, n'a pas le goût de la couleur.
Moi, ça me donne une furieuse envie de le mettre dans une sauce, en fait, de lier une sauce d'un braisage, un fond de braisage d'une viande avec
Absolument, pour apporter de la fraîcheur.
Ouais.
C'est ce que recommande la maison Bottet, B-O-T-E-H, tenue par Endiché Azadarf et sa mère Nasrin. Ce sont deux Iraniens de France qui ont à cœur de promouvoir la cuisine persane en France. Ils préparent aussi d'exceptionnelles confitures délicatement parfumées aux épices d'Iran. Et ils proposent cet or noir et ils conseillent effectivement de s'en servir pour accompagner du poisson cru, du magret de canard, des Saint-Jacques, un fromage de brebis, pourquoi pas. Mais il est vrai que ça tamponne. Moi, ça me rappelle un peu ces petits bonbons qui piquent, qui sont vraiment, qui venaient comme ça vous saisir les papilles.
Un peu les têtes brûlées,
c'est ça? Oui, c'est ça, mais sauf que là,
c'est plus oriental que ça.
Entièrement naturel. Hein. Là, c'est du citron noir d'Iran avec un peu de sucre de canne et ça donne ce condiment absolument extraordinaire. Bon, vous avez
super long.
Oui, c'est très équilibré pour finir.
Je vous ai flingué les palais.
C'est vrai que ça percute. Ça réveille.
Et bien justement, on va faire une petite pause musicale pour essayer de se remettre le palais en route derrière la console pour mitonner l'émission en direct aujourd'hui. Laurent Thomas, Florent Layani, Nadia Chougui. Dans un instant, nos invités débattent sur le juste prix du vin. Mais pour l'heure, ce sont les adultes qui parlent. The Adults Are Talking, extrait du dernier album du groupe new-yorkais The Strokes. Et c'est un choix de notre programmateur musical, Djoubaka. On va déguster sur France Inter.
Been saying you're sophisticated.
Don't go there, 'cause you'll never return. I know you think of me.
C'est une tradition bien ancrée dans cette émission. On va déguster, vous fait découvrir chaque semaine, ou presque, des flacons grâce à nos experts chroniqueurs Dominique Hutin, Antoine Gerbel et Jérôme Gagnès qui se relaient à ce micro chaque dimanche. Et fatalement, quand on débouche une bouteille, on en vient forcément à parler de son prix.
Alors j'ai choisi des vins d'une manière très très particulière. Le premier vin commence à 5,60€. Vous voyez que c'est quand même une manière de ne pas gréver le budget pique-nique.
C'est Claire Naudan, c'est le domaine Naudan-Ferrand. On est dans les Hautes-Côtes et on boit de la Ligotée. C'est son 2015, ça coûte un tout petit peu plus cher, c'est entre 12 et 14€. Elle travaille en naturel, elle travaille en bio. C'est vendangé quand même à la machine parce que il faut quand même tirer un peu les prix et ça se boit tout seul aussi.
Bon, vous allez m'engueuler. Enfin, les auditeurs aussi vont m'engueuler. Mais je leur répondrai, je vais surtout leur expliquer.
Ah,
le vin est cher. Un vin classique, il est produit à 40 hecto-hectares. Et il est vendu 15€. Ici, les vins que je présente souvent sont aux alentours de 15€. Ici, on a un vin qui est produit à 10 hecto-hectares. 4 fois moins pour 2 fois plus de travail. Et on a un vin qui est à 24€. Donc, on peut dire que produire ce vin relève aussi un peu du sacerdoce.
Jérôme Gagnès, vous en avez fait la douloureuse expérience plusieurs fois. Évoquer le prix d'une bouteille de vin, c'est aussi prendre le risque de créer des interrogations, de l'incompréhension ou parfois de l'indignation de la part de nos auditeurs qui nous reprochent régulièrement de leur conseiller des vins trop chers, largement au-dessus de leur budget. Jérôme, s'il fallait poser un peu les clés de ce débat, d'où viendrait cette incompréhension ?
Alors, je vais vous répondre, mais avant toute chose, je voudrais avoir une pensée très amicale et très affectueuse pour tous nos copains vignerons à travers la France qui doivent commencer un peu à se faire des cheveux parce qu'il y a une vague de froid qui arrive cette semaine avec parfois des pluies et donc on risque d'avoir des gelées qui peuvent être extrêmement fortes. Donc une grande, grande pensée à eux. On vous embrasse tous, on pense à vous et on espère vraiment que ça se passera le mieux possible.
L'ami Dominique Hutin qui nous écoute m'a envoyé un SMS dans ce sens aussi. On annonce une terrible vague de gel avec la certitude d'une perte à 100% sur certains vignobles. C'est une question assez préoccupante, Pierre Villapaléja.
Bah oui, parce que là, la vigne a commencé à sortir un peu ses bourgeons. Donc potentiellement, ça va affecter la quantité produite à la fin. Seul, on en reviendra à la notion de prix. Bon, bah,
mais donner des certains moyens. C'est lié, ça aussi.
C'est clairement lié.
Les climatiques peuvent avoir une répercussion sur le prix final de la bouteille.
Exactement. Certaines régions qui ont un peu plus les moyens pourront justement avoir des remèdes pour combattre un peu justement les effets du gel.
Jérôme, alors venons-en à ce débat sur le prix du vin et le juste prix du vin.
Bon, donc en gros, on va fixer le cadre. Le cadre, en fait, c'est viticulture industrielle face à la viticulture artisanale. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour définir le prix de revient d'un vin. C'est le vigneron est face à une multitude de décisions qu'il doit prendre sans arrêt tous les jours et chacune de ces décisions impacte à la fois la qualité future du vin mais aussi son prix de revient. Donc c'est très important. Je vais vous donner quelques chiffres pour que on fixe un peu le cadre du débat. Ce sont des chiffres qui m'ont été donnés par François Dalle de la SICAVAC à Sancerre, qui est un immense spécialiste de la vigne et que je remercie mille fois, ainsi que Julien Lavenu de chez De Renoncourt, consultant, de m'avoir aidé parce qu'ils m'ont donné des bons chiffres, ils m'ont donné des indicateurs intéressants. Heures de travail par hectare. Côte-Rôtie, je vous rappelle, c'est la vallée du Rhône Nord. On est à 30 km au sud de Lyon, sur la rive droite du Rhône. C'est un vignoble qui est extrêmement pentu, un vignoble de moyenne montagne, avec une partie des vignes qui sont dans des pentes qui ne sont pas mécanisables, qui travaillent au treuil, et l'autre partie qui est faite de petites terrasses, donc qui ne sont pas mécanisables non plus. Donc ça veut dire qu'on travaille énormément. 1200 heures par hectare et par an de travail en Côte-Rôtie. Sancerre, 700 hectares par hectare et par an. 700 heures par hectare et par an.
Donc 1200 pour Côte-Rôtie contre 700.
700 pour
Sancerre.
Sancerre. Moyenne des AOC françaises, 350 heures par hectare et par an.
Mm-hmm.
Et la viticulture industrielle de plaine extrêmement mécanisée, c'est 50 heures par hectare et par an.
Ah oui, donc c'est pas du tout
donc,
la même échelle.
Il faut bien comprendre l'enjeu de ce que ça représente. Cette histoire de coûts. Et ensuite, le nombre d'ouvriers à l'hectare. Côte-Rôtie, un ouvrier pour un hectare et demi. Sancerre, un ouvrier pour 3,5 hectares. Et dans ce vignoble qu'on va qualifier d'industriel, il n'y a aucun mépris dans ma voix. Tout le monde doit pouvoir boire du vin. On doit trouver du vin à tous les prix. Mais qu'on fixe au moins les termes du débat. Industriel, un ouvrier pour 50 hectares. On a fixé à peu près le cadre de notre discussion aujourd'hui. On pourra dire ce qu'on veut. Je veux dire par là que je pense que cette ligne de fracture, elle se situe, si fracture il y a, entre une viticulture qui est artisanale, qui fait beaucoup de choses à la main, qui cherche à limiter les rendements, à gagner en qualité, puis une viticulture industrielle qui, elle, cherche à faire des volumes pour faire baisser les prix.
Il y a donc des paramètres objectifs qui rentrent en ligne de compte pour fixer les prix des vins. Réaction par rapport justement à ce premier point de Jérôme Gagnez, Laure Gasparotto.
En tout cas, bravo Jérôme, parce que c'est un très bon résumé du cadre. Il faut savoir que le cœur du marché du vin, c'est entre 8 et 12 euros. J'ai passé quelques temps cette semaine avec un des gros faiseurs de vin, un gros producteur, un négociant du Languedoc, qui est Jean-Claude Masse. Il a eu 850 hectares, ce qui lui permet justement de produire des vins très abordables. Le vin blanc le plus vendu en grande surface, c'est lui qui le produit. C'est un Viognier à 5 euros. Et il peut le faire parce que dans des appellations de pays d'oc, on peut faire des rendements plus élevés, irriguer la vigne. Donc, on a plus de produits. À un moment, il faut être réaliste pour que le prix est intimement lié au rendement. Donc, il ne faut pas, quand on entend 10 hecto-hectares, ce n'est même pas agronomiquement bon, ni pour la vigne, ni pour l'homme. Tout le monde souffre. Ce n'est pas bon. Après, il y a le juste milieu entre l'artisanat, qui doit se situer vers 20-25 hecto-hectares, et puis l'industriel, peut-être vers 50, 45, 50 hectares, voire davantage.
Oui, plutôt davantage, parce que je pense qu'on peut produire des bons vins artisanaux à 45 hecto-hectares, mais on est d'accord sur ce constat. La question, on va peut-être juste spécifier le rendement, c'est la quantité de raisin exprimé en litres de jus par hectare. Donc quand on parle de 10 hectolitres à hectare, ça veut dire qu'on récolte 1000 litres à l'hectare. Quand on parle de 40 hectolitres à l'hectare, on en récolte 4000. Donc évidemment qu'on ne calcule pas son coût de production de la même façon.
Pierre Villapaléja.
La dimension vigneronne est extrêmement importante et on voit qu'il y a des disparités assez folles d'une région à une autre parce que si on parle juste du vignoble français, on voit que il y a des arguments à la fois climatiques, on l'a évoqué. Quand on est dans le Languedoc, c'est peut-être un peu plus facile de produire justement un peu plus que certains vignobles plus un peu plus, on va dire, ça va être difficile, on va déguster certains 25%. Pour ma part, je m'en risquerai plus, je vais plus laisser parler la vigneronne, l'ancienne vigneronne, sur la partie viticole. Voilà, je me parlais plus de la partie au moins restauration.
Absolument, puisque vous êtes restaurateur, vous vendez du vin et on a beaucoup de questions aussi sur le prix du vin au restaurant. On va aborder évidemment ce sujet tout au long de cette émission. La différence du prix du foncier selon les vignobles, les écarts entre les appellations, la situation du domaine. Jérôme l'évoquait, la viticulture de montagne coûte plus cher que la viticulture de plaine. La densité de plantation des pieds de vigne, tout ça ce sont des critères objectifs et qui expliquent effectivement des disparités très importantes parfois entre les différents prix des vins. Laure Gasparotto, faire votre vin, ça a été un rêve, il est devenu réalité. Pour celle qui était jusqu'alors dégustatrice et journaliste vin très reconnue, vous racontez votre aventure dans ce récit vigneronne aux éditions Grasset. Vous êtes très bien placé justement pour nous expliquer le prix d'une bouteille de vin puisque vous avez été de l'autre côté de la barrière. Comment a débuté cette aventure ?
Cette aventure, elle a débuté un jour où je faisais un reportage en terrasse du Larzac, qui est dans le nord-ouest de Montpellier. Les terrasses du Larzac, c'est un vignoble qui est en contrefort du plateau du Larzac. Et je vois un panneau à vendre devant des vignes, et je demande le prix à l'hectare. Déjà, ça commence, on parle de prix tout de suite.
Foncier.
Le prix du foncier à l'hectare. Et on me dit, c'est à peu près 15 000 euros. Alors 15 000 euros l'hectare de vigne dans le Languedoc, c'est parmi les moins chers de France. Il faut aussi savoir que le prix du foncier a des répercussions sur le prix de la bouteille. En Bourgogne, c'est là où on atteint des prix astronomiques, délirants, jusqu'à 6 millions d'euros l'hectare pour un grand cru de Bourgogne.
Là, il y a un nouvel record qui a été explosé, c'est une vigne de Ruchot-Chambertin, 0,6 hectares à 18 millions d'euros. Donc ça entraîne beaucoup de choses au-delà du fait de vendre une vigne. L'acquéreur est très peut-être chanceux ou du moins a des moyens, mais ça a des répercussions aussi sur les frais de succession par la suite.
Voilà, et c'est ça, parce qu'en fait, moi je connais des vignerons qui passent leur vie à payer des droits de succession pour que leurs enfants puissent bénéficier de leur outil de travail.
Les raisins de la colère.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce coût des droits de succession qu'on doit calculer chaque mois, il est forcément répercuté dans le prix de la bouteille d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, comment ça a commencé pour moi? Déjà, première chose, on demande le prix à l'hectare. Et là, je me dis, ah, mais mon rêve est possible. L'aventure est possible. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de néo-vignerons dans ce genre de région, comme dans la Loire aussi, où la vigne est plus accessible.
Ce sont un peu des Eldorado ou des, on va pas dire des terrains vierges, mais en tout cas, des régions où il est encore possible de planter son drapeau et de s'installer.
Après, j'y suis allée un peu la fleur au fusil, parce que ce que j'ignorais, c'est que chaque année, il faut que je remette à peu près au pot pour chaque hectare entre 8 et 10 000 euros de frais de culture. Les frais de culture à l'année, par hectare, ça peut varier de 5 000 à 15 000 euros selon si on veut faire passer un cheval pour labourer. Par exemple, une structure dernièrement m'a dit que de passer au labour de cheval, ça avait une répercussion de 67 centimes sur le prix de sa bouteille. Vous voyez, c'est comme
De chaque bouteille. Ah oui. Donc, c'est-à-dire de passer d'un labour mécanisé, en gros en tracteur, au cheval, ce qui est quand même un choix que l'on voit de plus en plus, notamment dans la viticulture, de la biodynamie, etc. Ça a effectivement un impact direct sur le prix final du vin.
Voilà, remettre du vivant, de l'animal dans la vigne, ça a un coût. Alors après, ça n'a pas forcément une répercussion sur le goût. Mais en tout cas sur le coût. Après, quand on achète une bouteille, justement, on achète un goût, on achète une région, mais on achète aussi une façon de voir la vie, une façon de participer à l'environnement. Alors pour moi, mon prix de revient, je vais être franche, il était très très élevé pour un vin de ma région. Il était de 5,40 €. C'est simple.
La bouteille. J'ai
la bouteille. Ça, pour c'était mon coût de revient.
Pour un prix de vente au domaine.
Alors, après, mon prix de vente au domaine, je vendais très peu aux particuliers, puisque je n'étais pas connue, c'est moi qui ai créé ma marque. Donc, mon premier client, c'était des professionnels. Donc, je vendais aux professionnels la moitié du prix qu'un client final peut avoir. C'est-à-dire que donc, pour 5,40 €, je vendais ma bouteille de Terrasse du Larzac à 8,50 € hors taxe.
Vous aviez donc une marge
beaucoup trop faible. C'est très simple. J'ai commencé à vouloir acheter que 2 hectares en me disant je vais pas pouvoir devenir vigneronne du jour au lendemain, je vais commencer à me faire la main. Et un ami vigneron local m'a dit, tu sais, tout ce que tu vas faire administrativement pour 2 hectares, tu vas le faire pour 5. Donc autant en acheter 5, comme ça déjà, mon énergie va être démultipliée et j'aurai plus de bouteilles à vendre pour, dans mon coût de revient, ça va baisser. Ça a été vraiment déjà un vigneron, la seule chose qui s'est... Un vigneron sait compter. Avant d'être vigneron, je savais à peu près écrire et lire. Et
vous
en fait,
le savez
en
toujours, puisque vous officiez
vigneron,
toujours.
J'ai appris à compter.
Comme journaliste.
On compte tout le temps quand on est vigneron. Mm-hmm. Et ça a commencé comme ça.
C'était le domaine Les Gentillères. Vous avez réalisé combien de millésimes?
J'ai réalisé 4 millésimes. J'ai produit 18 000 bouteilles la première année parce que ma vigne, en fait, avait été en culture raisonnée avant moi et c'était une vigne qui produisait bien. Sauf que moi, j'ai souhaité la convertir à la biologie. Donc, ça m'a fait une baisse de rendement considérable. J'ai terminé mon dernier millésime et j'étais à 12 000 bouteilles. Donc, vous voyez déjà sur mon coût de revient aussi la répercussion.
Oui, bien sûr. C'est un effet
en fait, passer du conventionnel au bio, généralement, ça fait augmenter de 15% le prix de la bouteille.
C'est ça.
15 à 20%.
La conversion à l'agriculture biologique a effectivement un coût et on observe, les chiffres sont à peu près unanimes sur le sujet, il y a une différence de 20% de 20% d'écart entre le prix d'une bouteille à tout critère égaux, hein, entre une bouteille issue de la viticulture conventionnelle et une bouteille bio, hein, globalement. Laure Gasparotto, vous avez finalement décidé de jeter l'éponge?
J'ai jeté l'éponge parce que dans mon coût de revient, je ne compte même pas mon salaire puisque je n'étais pas payée. Donc ça, au bout de 4 ans, c'était vraiment une danseuse pour moi et je n'en avais pas les moyens. Donc j'ai retrouvé la réalité et je suis retournée à faire un travail rémunérateur.
Jérôme, vous avez bu cul sec le livre de Laure Gasparotto. Est-ce que vous pouvez nous en livrer un petit commentaire de dégustation?
Oui, oui, avec plaisir. J'ai lu ce livre à la fois avec plaisir et avec douleur. J'ai participé à votre douleur, Laure. Non, non, pas du tout. Vous livrez un récit qui est plein de sincérité, plein de... vous donnez beaucoup de vous-même dans ce livre. Je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la viticulture de lire ce livre. C'est un indispensable désormais avant de se lancer dans la viticulture parce que vous n'y allez pas par quatre chemins et sans détour, vous parlez bien de ce qu'est la difficulté d'arriver dans le monde du vin pour une femme, pour une étrangère entre guillemets en terre languedocienne et vous n'occultez aucune des difficultés que vous avez rencontrées. Et à la fois, c'est un récit qui est très touchant parce que vous nous parlez aussi de l'amitié vigneronne, une certaine solidarité qui peut régner au sein d'une même appellation. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai dévoré en une soirée. C'est un livre qui parfois est un peu difficile, parfois un peu dur, parce que j'ai souffert avec vous en lisant ce livre, en me disant quand même quel courage, quelle difficulté. Donc voilà, toute personne qui veut aujourd'hui acheter quelques hectares de vigne, qui est un néo-vigneron, doit absolument lire Vigneronne de Laure Gasparotto aux éditions Grasset, parce que vraiment, vous, tout est dit là.
Vous êtes passé par là et on vit effectivement les espoirs, les rêves, l'enthousiasme, mais aussi les sacrifices, la frustration. Livre très intéressant, écrit sur un ton personnel, même très émouvant aussi. Il était tout chamboulé, le Jérôme Gagnez, quand il m'a parlé de votre livre au téléphone, oui, aux éditions Grasset. On va en venir au coup de cœur de Pierre Villa-Paléja, et ça va se passer du côté de Bordeaux. Mais juste avant, une question d'auditeur, Mathieu.
Il est question de Bordeaux aussi. Céline nous écrit sur le prix du vin à Bordeaux. Il faut intégrer le monopole insupportable des négociants prenant leur marge. Ils ont fait le choix de monter artificiellement les prix par la demande et vente à l'export. Nous ne sommes donc pas sur le coût du travail, mais bien la vente de marques à des acheteurs prêts à acheter à n'importe quel prix la marque Bordeaux. Il faut aller directement au château. Ça, je souscris.
Non, c'est complètement faux.
Il faut aller sur place. Je souscris à cette dernière phrase. Il faut aller directement au château.
C'est vrai qu'on fait souvent ce reproche-là à Bordeaux.
Mais c'est complètement faux. On parle. C'est appliqué à une région entière, une réalité qui vaut pour moins de 2% de ses volumes. Donc, il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Ce que décrit cet auditeur ou cette auditrice, c'est le mécanisme c'est le mécanisme des crus classés avec le négoce. Allez sur place, prenez votre petite voiture et allez d'un domaine à l'autre, allez goûter, vous allez découvrir des petites merveilles qui passent pas par le négoce, qui sont vendues en direct au château, et vous découvrirez des super vins à tous les prix, et même à des prix qui sont tellement bas qu'ils ne permettent même pas aux vignerons de vivre décemment. Donc non.
Et on a souvent tendance à mettre Bordeaux, des généralités, à mettre tout Bordeaux dans la même cuve.
Oui,
c'est ce qui s'appelle peut-être bien ce qu'on a, le Bordeaux bashing.
On parle du Bordeaux bashing.
Pierre Villa-Paléja.
Je suis désolé donc par rapport à cette auditrice. Je suis absolument en désaccord avec ça parce qu'elle ne voit que la partie immergée de l'iceberg. On parle bien sûr des classés parce que c'est un peu la vitrine, évidemment, d'un point de vue qualitatif et de prestige, tout ça. Mais après, il y a le reste du monde. Bien sûr, il y a la partie négoce qui a permis justement de faire rayonner à l'échelle européenne et mondiale le vignoble bordelais. Et c'est grâce notamment à Bordeaux, il faut leur attribuer ça, qu'on a parlé de la viticulture française qu'ils ont su le commercer, ils ont su le vendre. Parce qu'un bon vin, il faut bien le faire, mais il faut aussi en faire parler. Laure l'a dit justement, elle avait d'abord que des débouchés professionnels, elle n'en a pas fait parler aux... à des particuliers, et donc peut-être que ça aurait été plus simple par la suite d'un point de vue financier. Donc faut pas cracher là-dessus, je pense.
La démonstration par l'exemple.
Exactement.
Alors vous avez, on le fait rapidement parce que l'idée dans cette émission, c'est de proposer plusieurs cuvées à la fois pour nos auditeurs qui nous écoutent attentivement derrière leur poste de radio. Justement, il y a un Bordeaux rouge que vous avez versé dans nos verres.
Exactement. Je pense que c'est un vin qui porte bien son nom, ça s'appelle Cru Mon Plaisir. C'est fait par Xavier et Julie Gonnet-Medville. On est dans le Médoc, avec des merlots que je trouve extrêmement savoureux, qui se boivent sans soif. Ce que j'apprécie justement dans ces Bordeaux que l'on peut retrouver au domaine directement vers 11-12 euros, c'est qu'on a à la fois toute la spontanéité d'un merlot extrêmement juteux, pulpeux, mais en même temps tout ce que l'on aime justement du sérieux bordelais. C'est à la fois des vins avec du caractère, du sérieux, bien fait et pas surboisé. Et c'est l'une des démonstrations assez simples. Il y en a beaucoup d'autres dans d'autres secteurs qui montrent montre justement la capacité de Bordeaux de faire de très bons vins à des prix très accessibles.
Vous avez servi tout le monde sauf Laure Gasparotto.
Oh là là,
bah oui,
Pierre Villapalais déjà réparé.
Ceci dit, parmi mes coups de cœur, j'ai aussi un Bordeaux, là, le château de Ferrand, qui est plus cher, à 19 euros. Mais je suis allée voir les modes culturaux, par exemple. Le château de Ferrand, qui est à Saint-Émilion, qui a un grand cru à 19 euros, franchement, il est d'une élégance et d'une finesse remarquable. Et c'est pareil, ce sont des choix de culture artisanaux. Ils plantent leurs vignes à la main et non à la machine. C'est-à-dire, c'est une semaine de travail au lieu de deux jours de travail pour un hectare. Voilà, c'est aussi ça qu'on achète à Bordeaux. Enfin, il n'y a pas que de l'industriel. Je viens de récupérer ton vin.
Vous nous en redonnez le prix au domaine?
11 euros.
Et les auditeurs peuvent le commander.
Ah oui, bien sûr, achetez-le directement au domaine. Vous appelez des.
Oui, c'est un très,
très
joli
bon rapport qualité-prix plaisir. C'est ça que vous dites.
C'est un vin dont on aurait pu parler dans notre émission spéciale Bordeaux du mois de septembre dernier. Ce sont des merlots qui sont situés sur les palus, donc en bordure de Gironde, dans la presqu'île du Médoc. Ça fait effectivement un vin qui a le soyeux, la gourmandise et le fruit pulpeux d'un vin qui va à la fois sur le rôti du dimanche et en même temps un peu pour tous les jours, pour ceux qui ont envie de boire du vin tous les jours. C'est du bon Bordeaux, ça, comme on aime.
Dans cette émission liquide, on fait une petite pause solide et musicale avec Mathieu Conquet.
On va déguster. Sur France Inter.
Quelle est belle cette assiette assez printanière avec les premières fraises françaises que vous avez dressées avec votre femme cuisinière. On lui rend hommage, c'est Marie Conquet, elle nous réserve comme ça régulièrement de très belles surprises. Et là on est sur une composition effectivement qui serait un peu en transition entre l'hiver avec la betterave, le printemps avec la fraise. Racontez-nous, c'est assez étonnant. Mais juste avant quand même, vous avez cette petite idée et musique derrière la tête.
Red, red wine pour to my head, makes me forget that I still need her so.
Alors Jérôme, red, red wine. Ça, c'est pas la version originale. La version originale, c'est Neil Diamond. Et c'est pas la version de UB40. Mais ça, c'est un reggae du Jamaïcain Tony Tribe en 1969.
D'accord, parce que moi, j'ai réagi hors antenne en disant UB40.
UB40 a popularisé cette ère, effectivement.
Voilà, exact. Ils ont été les négociants de cette chanson.
Voilà,
ils l'ont fait connaître dans le monde entier. Alors, du vin rouge, vous allez voir, il y en a dans la recette que je vous propose, que vous propose mon épouse Marie Conquet. C'est promis, la prochaine fois, je viens avec elle. Hein. C'est promis, on le fait pour l'antenne. Alors, la recette, les betteraves.
On va tenir notre promesse.
Tressailles, c'est des petites betteraves multicolores qu'on va associer à du vin et des fraises. C'est un plat qui est blanc, jaune, rouge, coloré. C'est une entrée à la fois tendre et chargé de tanins. Alors, il faut prendre des petites betteraves multicolores qu'on fait cuire à l'eau au moins 30 minutes. La pointe du couteau, elle doit pouvoir s'enfoncer facilement. Ensuite, on va les peler. Une fois cuites, on les épluche, on les fait revenir à la poêle avec un filet d'huile et on déglace au vin blanc jusqu'à absorption du liquide. Alors, le vin, on va utiliser celui du domaine des Bérioles, dont je vous parlais tout à l'heure, près de Saint-Pourçain, dans l'Allier. C'est un joli domaine, une histoire de famille aussi, récolte manuelle. C'est un domaine qui fait aujourd'hui 15 hectares. Il faisait 8, je crois, quand ils ont commencé à la fin des années 80, début 90. Et ça, c'est une cuvée particulière. Le Tressailles, c'est vraiment le cépage qui est propre à la région de Saint-Pourçain. C'est
un vin blanc. Tressailles.
Le Tressailles, pardon. Cette cuvée s'appelle Tressailles.
C'est le nom de la cuvée, mais voilà, c'est Tressailles, le cépage.
Mais vous avez eu l'occasion d'en parler
récemment à l'antenne. J'en ai parlé récemment à l'antenne.
Et vous êtes absolument fan de...
Je suis absolument fan de ce domaine. Pour moi, c'est un des domaines phares de l'appellation Saint-Pourçain, d'une part. D'autre part, il est l'incarnation même du juste prix.
C'est ça.
Et de l'excellent rapport qualité-prix. Je souhaite même d'ailleurs que les prix grimpent un tout petit peu pour assurer une bonne pérennité économique à ce domaine qui est géré de main de maître par des gens absolument délicieux qui ne gâtent rien.
Donc les planètes Gagnaise et Conquet sont alignées.
Elles sont parfaitement alignées. Bravo Mathieu.
Et là, l'idée, bah, bravo Marie, surtout l'idée de déglacer au vin blanc, pardon, oui. Ça va permettre de développer le côté salin, vif, hein, il y a une petite touche d'acidité. Et puis d'un autre côté, on va utiliser du vin rouge, alors on reste toujours dans le même domaine des berrioles, qu'on va faire réduire lui aussi 30 minutes, donc le même temps exactement que vos betteraves. Et là, là on a utilisé la cuvée La Chabanne, c'est un pinot noir qui est sur une parcelle exposée au sud, qui a une belle complexité, et la réduction, elle va concentrer le tanin. On va ajouter un petit peu de miel, d'huile d'olive, une fleur de sel, on va émulsionner, c'est une sorte de vinaigrette, hein, mais qui est plus riche en goût et qui conserve mieux les propriétés du vin. Et puis on peut goûter, rectifier si nécessaire, si vous aimez plus ou moins l'amertume, vous n'hésitez pas à arranger pendant que vous faites la recette. Et ensuite, vous disposez dans une assiette les betteraves avec des fraises, là c'est des petites mariguettes qui viennent de Provence, hein, le domaine de Roquehaute, ramène pas ta fraise, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Là, c'est les premières.
Vous avez
premières
la barquette en carton.
Voilà. Et elles sont vraiment délicieuses, elles ont une très bonne chair. Et on va arroser tout ça d'un filet de cette réduction de vin rouge avec une cuillère de crème crue qui va apporter la rondeur gourmande.
Et l'onctuosité.
Voilà.
C'est irrésistible.
Résultat, ces betteraves jaunes, ces fraises, elles tressaillent.
C'est vraiment, franchement, c'est une très très belle composition qui est en plus tout à fait harmonieuse dans ces camaïeux de couleurs. Franchement, non, bravo, et la recette, on la retrouve sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Évidemment, il y a tout à la page de l'émission, et sinon vous suivez sur les fils Instagram de chacun, et celui de Marie Conquet, il y a toute la recette avec les images. Alors, pour la musique, qu'est-ce qui va aller avec ça? Contrairement à la chanson Red Red Wine qu'on entendait au début, vous savez, il essaye d'oublier sa rupture amoureuse en oubliant, en buvant du vin, il essaie d'oublier en buvant. Non, on va se souvenir de plein de choses avec un très beau morceau d'un groupe auvergnat comme le vin, un groupe que j'adore, c'est le groupe Mustang, ils viennent de sortir un nouvel album. Et dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Le Vin, et il dit des choses superbes. Le vin, il sent comme un pays où jamais tu n'iras, il ouvre des fenêtres jamais creusées chez toi. Le vin pour ramener des ancêtres que tu ne connais pas.
Le vin, il sent comme un pays où jamais tu n'iras. Le vin, il a un goût de fruits. Pousse pas là-bas. Le vin, il ouvre des fenêtres jamais creusées chez toi. Le vin pour ramener des ancêtres que tu ne connais pas. Le vin.
Juste Tang, un groupe de originaire de Clermont-Ferrand, comme un certain Mathieu Gonquet.
Oui, tout à fait. Moi, j'étais de Rion, c'était juste à côté. Oh, oui. Et il faut préciser quand même, parce que Clermont-Ferrand, c'est le Puy-de-Dôme, et Saint-Pourçain, c'est l'Allier.
Ah oui, non, ouais. C'est pas du tout.
Il ne faut pas mélanger. Voilà, ça n'est pas le même endroit.
Moi, personnellement, ça m'a choqué. Hein.
C'est l'Auvergne. Ça reste l'Auvergne, et on est très fiers de ces deux régions.
Saint-Pourçain, au nord de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup pour cette précision.
J'entends tous les auditeurs qui se hérissent parce qu'on a tous été victimes d'une purge infâme, d'une espèce de bibine dégueulasse qui était même pas bonne pour faire les carreaux parce que ça les raye. Hein
sur France Inter.
Il est incorrigible, ce
genre.
Il est plutôt calme et constructif aujourd'hui.
Ouais,
il est dans le débat. Alors comme on va profiter de sa grande sagesse pour lui confier cette réaction d'une certaine Lorane T.
Ah, je la connais, je crois. Elle est derrière la vitre.
Ouais, ce n'est autre que notre réalisatrice qui m'a dit au casque pendant la chanson de Mustang, j'achète régulièrement chez Leclerc, en région parisienne, un vin rouge bio de l'appellation Visan, Côte-du-Rhône, village, à 4,99€, Rive et Terrasse. Alors ça, c'est un peu, est-ce que c'est le nom d'un domaine ou
non,
est-ce que
c'est un nom de marque.
D'accord.
C'est la marque de
Leclerc. Mais Lorane me dit qu'elle prend beaucoup de plaisir à boire ce vin. Que faut-il penser de ce vin et de son prix, Jérôme Gagnaise?
Alors, je ne l'ai pas goûté, donc je vais pas en dire ni du bien ni du mal.
Elle ne nous l'a pas apporté, c'est pour ça.
Elle ne nous l'a pas apporté, on regrette bien, merci Lorane. Non, en l'occurrence, je ne doute pas que ça puisse être délicieux et très agréable à boire, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, il tient simplement, et on va pouvoir demander à Laure Gasparotto son avis. Mon propos est de dire que en deçà d'un certain prix, ça devient compliqué d'avoir un achat qui permet de rémunérer à peu près correctement tout le monde, à savoir les différents intermédiaires, mais en particulier le producteur. Vous savez, on avait fait une chronique sur les vins du Barou, de l'abbaye du Barou, via Caritatis, avec une petite coopérative. Ils avaient pour objectif, qu'ils sont en train de gagner, ils avaient pour objectif d'assurer, parce que c'est de la viticulture de moyenne montagne, d'assurer un revenu minimum de 8 000 € par hectare aux coopérateurs. Eh bien, je pense qu'avec des vins comme ça, on n'assure pas un revenu. Alors, il ne s'agit pas de 8 000 €, puisque là, je pense que c'est des vignes de plaine. Néanmoins, on n'assure pas un revenu convenable à ces viticulteurs. Donc, les viticulteurs, ils s'adaptent à ce qu'on leur demande. Donc, ils travaillent toujours un peu moins dans les vignes, ils mécanisent toujours beaucoup plus pour faire le plus de raisins possible pour arriver à s'en sortir. Donc encore une fois, quand on achète ces vins-là, tout le monde achète ce qu'il veut, je m'en fous. Mais simplement, il faut savoir, il faut acheter en connaissance de cause. On vote avec sa carte bleue. Donc si on achète ces vins-là, on cautionne, on dit bah oui d'accord, moi je me fous un petit peu de savoir si le mec dans sa plaine à Visan, il s'en sort, il fait une viticulture à peu près raisonnable, parce que ce vin-là...
Vous allez rester calme avec Lorane,
il me convient. Non mais ça, il s'agit pas de Lorane. Lorane nous parle de ce vin. On a goûté des vins avec Lorane. Non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est d'attirer l'attention de nos auditeurs qui sont des consommateurs, de leur dire vous votez avec votre carte bleue. Donc, quand vous achetez un vin à des prix dérisoires et que vous dites c'est formidable, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous réjouir quand vous êtes plombier ou quand vous êtes dans une entreprise de dire on va vendre le moins cher possible comme ça? Non. En fait, il faut vendre à un certain prix.
Mais est-ce que les vins n'ont pas été touchés par le même syndrome que tous les produits agroalimentaires, finalement, on connaît le diktat des prix bas imposés notamment depuis des décennies par les acteurs de la grande distribution, et on sait à quel point cette stratégie, sous prétexte de rendre service aux consommateurs, de leur offrir des produits le moins cher possible, on sait que par ailleurs, en coulisses, en amont, ça matraque les producteurs, ça les condamne bien souvent à ne plus vivre de leur labeur, ça encourage aussi une agriculture souvent intensive et industrielle, qui est moins bonne pour l'environnement, qui a un coût également sur parfois la santé du producteur. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question des vins vendus en grande surface, Pierre Villapaléja.
En effet, oui. C'est vrai qu'il faut du vin pour tout le monde, mais ce qui m'intéressait, avant de rentrer à la revue du vin de France, justement, j'étais démarché parce que je faisais quelques guides de foire au vin pour un magazine, et c'était très intéressant de déguster des vins qui étaient faits à 500 000 bouteilles et qui étaient vendus d'€50 en tête de gondole. Et quand on calcule un peu, on retire la TVA, qui est de 20%, quand on retire la marge du produit, le prix du bouchon et du verre, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de jus de raisin dedans, et notamment quand on goûte des vins boisés, faut se rendre compte qu'une barrique, on va prendre un peu de barrique neuve qui coûte 600€ pour à peu près 300 bouteilles, je vous laisse faire le calcul, et que vous goûtez des vins boisés, on se dit, à un moment, le consommateur final quand même empathie un peu s'il se retrouve avec des vins de ce profil-là.
Les vins pas très chers, c'est plutôt des staves, c'est-à-dire c'est du jus de bois. Hein. On met du bois dans le vin plutôt ça. Que
les copeaux, des morceaux de bois.
Et c'est des morceaux de bois, et on se dit bon bah très bien. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de se moquer du consommateur final avec un packaging bien adapté? Mettons un tout petit peu plus cher pour avoir non pas forcément tout le temps des vins extrêmement chers, mais au moins au juste prix, comme le disait si bien Jérôme. Et on se rend compte que certains font justement le nécessaire, même en GD. Hein, 80% des vins vendus en France, c'est en grande distribution. Il faut pas cracher dans la soupe non plus. Et c'est grâce à certaines grandes enseignes qu'on arrive justement à avoir une vraie économie du vin. Pour autant, des prix trop bas, à un moment, on sait très bien qu'on peut pas avoir quelque chose à la fois respectueuse de l'environnement, des vignerons qui travaillent dans les vignes, mais aussi respectueuse du consommateur final.
Donc c'est un leurre, ces prix trop bas pour des bouteilles de vin.
Moi, je pense qu'à moins de 5 euros, c'est difficile de contenter tout le monde au niveau de la production. Mm-hmm. 5 euros, ça me paraît le juste prix du premier prix du vin.
D'accord. Voilà. Très bien. Ouais. Bah, au moins, ça donne un seuil dans l'esprit de nos auditeurs consommateurs et peut-être aussi consommateurs. Mathieu ?
Ça réagit énormément. Évidemment, voter avec sa carte bleue, ça fait beaucoup réagir. Il y a aussi beaucoup de questions sur les foires aux vins annuelles. Que peut-on en penser ? Est-ce que tout le monde s'y retrouve ? Il y a Philippe en Loire-Atlantique qui nous signale que il va chez un producteur, il paye sa bouteille 6,50 euros et puis ensuite, dans un supermarché, il trouve la même bouteille à 5,50 euros. Donc il se dit finalement, ça vaut pas le coup d'aller chez le producteur. Faut que j'en discute avec lui, mais sans doute que ce producteur n'a pas le choix. Il y a cette autre question intéressante, à la main ou à la machine, quelle différence ? Et quelle différence peut-être sur le prix du coup, mais quelle différence pour la nature, à la main ?
Alors maintenant, il y a des machines qui sont extrêmement performantes. Je me souviens être allée au domaine de Tariquet, qui a 1200 hectares en Gascogne. Et c'est 3 machines à vendanger qui fonctionnent pour un produit extrêmement géré de manière industrielle.
On pourrait presque dire formaté, standardisé.
C'est très, très formaté. Après, c'est un bon produit qui sort.
À quel prix environ ?
Mais voilà, c'est... Alors, Jérôme n'a pas l'air d'accord à côté de moi.
Jérôme a l'air de faire la grimace.
C'est pas atroce non plus.
Après,
La machine à vendanger, Jérôme.
Moi, je n'ai jamais vendangé à la machine. Après, je trouve que quand on est vigneron, on doit refaire vivre aussi un tissu social. Et le tissu social, enfin, sans vendange, moi, je ne serais jamais venu au vin. C'est lors de mes premières vendanges que je me suis dit qu'il y avait un truc qui avait changé dans ma vie.
Une espèce de magie.
Et je trouve que moi, j'aimerais même que les écoles, au mois de septembre, quand elles commencent, on emmène les enfants faire des vendanges pendant une journée. Ce serait culturellement et patrimonialement nécessaire.
Rappelez-nous, nos auditeurs nous redemandent le prix d'un tariquet en moyenne quand on...
C'est trop cher. C'est
une dizaine d'euros.
C'est hors de prix.
Non, c'est moins cher, je pense.
Le blanc, le premier blanc qui sent un peu le produit à chiottes, ça vaut 5 euros, 6 euros.
Mathieu.
Mais peut-être cette précision, quand on trouve un vin en supermarché, ça veut dire que le producteur est passé par un négociant et qu'il est capable d'offrir des volumes qui permettent d'être distribués un peu partout. Les petits, tout petits, ils peuvent pas se retrouver en supermarché.
Non, mais après.
Je dis une bêtise ou pas ?
J'étais acheté par Leclerc. À un moment, Leclerc m'a acheté une palette de vin. Ils n'ont pas discuté mon prix. Mais parce qu'en même temps, ça leur apportait de l'image d'avoir une vigneronne. Et quand je suis allée, j'ai été prise dans un Leclerc pour une foire au vin. J'étais bien content parce qu'on n'a pas discuté le prix. Après, il y a eu même mon portrait en grand dans les rayons. Mais parce que ça apportait de l'image à l'enseigne. C'est un échange.
Oui, bien sûr. Et puis parce que c'était probablement local et que vous étiez une vigneronne locale, c'était une façon de mettre en avant la production locale. Pour le coup, la machine, elle est importante parce qu'elle permet de produire des vins de qualité à un prix assez bas. Dès lors qu'encore une fois, on revient à notre débat, c'est industrie versus artisanat, la machine n'a pas sa place chez des vignerons qui souhaitent aller monter haut dans la qualité.
Le temps passe et on doit en venir à une autre question parce qu'il y a aussi votre coup de cœur chacun, celui de Jérôme Gagnès, celui de Laure Gasparotto, qu'on voudrait entendre et déguster. Mais tout d'abord, une question qui intéresse directement Pierre Villa, Paléja, beaucoup de réactions d'auditeurs à ce sujet, le prix du vin au restaurant, et notamment Ernest qui nous dit, quand on va en Italie ou en Espagne, on a le sentiment qu'on paye le vin moins cher au restaurant qu'en France. Comment cela s'explique, le vin au restaurant atteint parfois des prix exorbitants? Vous êtes restaurateur, oui. Le petit sommelier, c'est une adresse que l'on s'échange beaucoup, plus seulement sous le manteau d'ailleurs. Hein. Tous les amateurs de vin de France et de Navarre viennent dans votre restaurant parce que vous y proposez combien de références de vin?
À peu près 2000.
2000, ce qui est absolument colossal. Ouais, oui. Quelle est votre politique? Que répondez-vous à ceux qui nous disent que le vin est trop cher au restaurant?
Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire trop cher, ça dépend ce qu'on va y mettre comme service. Si vous allez acheter directement votre vin chez le producteur, ou alors il a été conservé, mis en cave, ensuite servi par un sommelier ou une personne de salle qui le conditionne, voilà, à un moment, il y a quand même un coût. Pour revenir à votre auditeur qui parle de, notamment en Italie, en Espagne.
Et c'est vrai ça.
Et ça,
moi je l'ai constaté aussi.
Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a trois points qui sont pour moi importants. C'est culturellement, justement, eux, ils ne font pas des grands coefs. Ça, c'est vrai. Il y a cette notion de coefficient qui est très
important. Définition d'un coefficient.
Coefficient, c'est en gros le prix d'achat. Et vous appliquez un x2, un x3 sur le prix pour déterminer le prix de vente. Ensuite, ça va dépendre de la politique de chacun, auquel j'adhère pas forcément. Quand on pense notamment à l'Italie et à l'Espagne, on pense à la grande gastronomie, il faut mettre un bémol à ça. Tous les grands restaurants ont du personnel, mais quand même et surtout, je suis désolé de le dire, ils ont une politique ou une façon... ils ont souvent beaucoup de stagiaires. Stagiaires qui sont souvent peu ou pas rémunérés, qui permet en fait de diminuer quand même beaucoup le coût du staff. Voilà. Ce qui, à la fin de compte, on peut se permettre justement d'avoir des prix assez bas pour suivre un peu cette culture du prix bas au niveau des vins.
Vous dites que le prix du vin dans un restaurant français est notamment grévé par la masse, enfin par les charges salariales.
Directement. Je suis désolé, mais on dit que les vins sont horriblement chers et que les restaurateurs parfois font des prix exorbitants. Je suis désolé, mais j'ai jamais vu un restaurateur sur un yacht. Ils peuvent gagner leur vie.
Il y en a quelques-uns, on peut vous en présenter.
Je suis désolé par rapport à toute la restauration française. Pardon, mais il y a toujours des exceptions qui peuvent confirmer la règle.
Toutefois, le vin, Pierre Villapaléja, le vin est aussi une source de revenus pour le restaurateur. On dit même qu'elle est souvent plus importante que l'assiette.
Alors ça c'est pour certains, c'est vrai. Moi, je l'ai un peu nuancé. Pour revenir à l'Espagne, je me suis inspiré quand j'ai commencé la carte des vins en 2009 au Petit Sommelier. J'ai entendu une statistique qui m'avait vraiment bluffé. C'était celle de Ferran Adrià, qui était à l'époque extrêmement connu, qui donc 3 étoiles, le restaurant où il fallait absolument aller, et il vendait à peu près une bouteille par client par service, qui était complètement dingue. Je me suis dit, mais comment il faisait? Étant donné que c'était vraiment une destination incontournable de la scène gastronomique mondiale, il faisait des prix bas, vraiment extrêmement bas, et c'était vraiment une destination. Et j'avais voulu m'inspirer de ça, ce qui permet justement, je m'en suis rendu compte, de vendre plus de vin, plus de bouteilles, parce qu'on faisait des prix plus bas que la moyenne, ne pas juste appliquer un coefficient, même si pour autant il y a toujours des charges fixes qui sont un peu importantes.
Rappelons que vous êtes restaurateur, le petit sommelier, vous êtes en ce moment caviste.
Oui, en effet, j'ai changé le restaurant en cave pendant cette période de Covid, et justement quand on parle du prix du vin au restaurant, ces mêmes bouteilles ne sont pas au même prix. J'adapte une tarification classique de caviste parce qu'il n'y a pas le service.
Absolument,
tout simplement.
Voilà. Comme quoi le service aussi au restaurant a un prix, il faut tenter de le comprendre. Un petit coup de cœur pour finir, Laure Gasparotto.
Moi, je voulais présenter le chemin en terrasse du Larzac, qui est les acquéreurs des vignes que j'ai achetées.
Oui.
Je leur ai transmis.
Oui.
Donc voilà, je voulais goûter avec eux. C'est leur premier, avec vous, c'est leur premier millésime 2018.
Très bien.
Je leur ai vendu les vignes. On a signé chez le notaire en août 2018, soit une semaine avant les vendanges. Donc j'ai porté à bout de bras cette vendange. C'est moi qui ai travaillé la vigne de janvier à août, et c'est eux qui ont vinifié. Donc voilà, je voulais découvrir.
Combien?
Ça coûte 19 euros.
D'accord.
Alors, en fait, voilà, par rapport au prix du vin, moi, je le vendais, donc ma bouteille à moi, elle était à 17 euros, j'avais 5 hectares. Eux, pour pouvoir baisser leur coût de production, à acheter des vignes en plus, ils en sont à une dizaine d'hectares. Ce qui, en fait, il y a aussi la taille de l'exploitation qui change le prix du vin final.
C'est très bon. Jérôme, allez, un petit coup de cœur à la fin.
Un petit coup de cœur rapide, c'est le domaine Tillardon. Paul-Henri Tillardon et frères et sœurs, ils sont à Chénas dans le Beaujolais. Il y a deux cuvées que j'ai sélectionnées, c'est la cuvée Raisin Libre et la cuvée Chassignol. Et pour vous expliquer la différence entre les prix de ces deux cuvées, il y en a une qui est à peu près à une petite quinzaine d'euros, l'autre qui est à une petite trentaine d'euros, environ 30 euros. La différence entre ces deux cuvées, eh bien, c'est qu'il y a, les Raisins Libres, c'est une parcelle de plaine. On fait 40-50 hecto-hectares et on y travaille moins. Dans la parcelle des Chassignols, tout est fait à la main, pas de mécanisation. On y fait un rendement de 25 hecto-hectares, donc quasiment la moitié. Et donc, ça explique la différence entre les prix de ces deux bouteilles. Et bien évidemment, dans la bouteille, c'est pas la même chose. Chassignol est plus ample, plus puissant, plus profond, alors que Raisin Libre donne un vin qui est de consommation plus rapide. Il est moins cher, il est plus léger.
Bel exercice pédagogique, un grand merci. La semaine prochaine, on prend la mer pour une émission autour du homard et de ses cousins crustacés. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.